Bonjour à tout le monde et merci à votre présidente Thomas Chrétien de m'accueillir aujourd'hui parmi vous à ce congrès. Alors la question du devenir de la formation infirmière, toutes les hypothèses sont possibles. On vit là, vous et nous, une révolution depuis la rentrée de septembre 2009. D'abord, l'entrée dans le processus LMD et ça ne peut pas s'arrêter là. Il va falloir que ça continue. On est dans le L, on va passer au M et ensuite au D. Le véritable enjeu pour l'université, c'est le niveau M. Ce n'est pas le niveau L, mais il y a aussi des enjeux par rapport à ça. Alors, 30 000 étudiants formés chaque année, 30 000 étudiants, c'est un nombre important aussi. Hein, et ça ne se gère pas comme ça du jour au lendemain. On ne va pas décider qu'il peut se passer telle chose ou telle autre chose. Et puis, le moment d'une réforme, c'est aussi le moment de faire un point sur certains éléments qui nous paraissent très importants. Il a été évoqué cet après-midi, et c'est évoqué à chaque fois, la question du maillage territorial. On voit bien déjà qu'il y a des problèmes, et qu'il y aura peut-être encore plus demain des problèmes de santé publique pour la population dans certains territoires du pays. Nous sommes un groupe social qui avons une mission, c'est-à-dire d'apporter des soins à la population et à toute la population de notre pays. Si demain... Aujourd'hui, en termes de maillage territorial, les instituts de formation sont suffisamment nombreuses pour assurer ce maillage territorial. Et par conséquent, on s'aperçoit aussi que le recrutement local est favorisé par des études qui sont faites 3 années dans un endroit, etc. On parlait de la Creuse en début d'après-midi. Eh bien, effectivement, s'il n'y a plus d'instituts dans des petits départements de ce type-là, est-ce qu'il y aura beaucoup de jeunes infirmiers qui auront pour projet professionnel d'aller s'installer dans un EHPAD dans la Creuse ? Peut-être moins. Bon. Donc il y a cette question du maillage territorial et des soins à la population qui est à prendre très au sérieux, à mon avis. Parce qu'effectivement, quand on est jeune, travailler à Paris, c'est bien mieux peut-être dans une grande ville que dans un petit village de la Creuse. Alors... Donc ça, des enjeux de santé publique, des enjeux aussi des enjeux financiers, parce que des études qui durent trois années, eh bien il faut s'installer, c'est pas toujours à proximité de son domicile, il y a un coût pour les étudiants, vous en parliez tout à l'heure aussi, hein, un coût important, donc il faut y penser également. Des enjeux de taille de structure. Nous pensons, en tout cas, nous, appareils de formation, que c'est un enjeu important par rapport au suivi des étudiants. Et effectivement, une structure qui accueille 500, 600, 700, voire plus d'étudiants ne peut pas assurer le même type de suivi que quand elle en accueille 100, 150, 200. Les conditions de vie, les effets de masse critique. Alors, il y a des enjeux budgétaires qui sont énormes aussi. Hein, et on sait bien qu'aujourd'hui, les enjeux budgétaires sont souvent prégnants par rapport à tout le reste. Donc, attention à ça aussi. Alors, c'est une formation aussi qui a un aspect professionnalisant. Et ça, il faut aussi absolument conserver cet aspect professionnalisant. On ne peut pas apprendre à soigner, on ne peut pas apprendre la relation... avec l'humain dans la maladie sur des bancs d'école. C'est pas possible. Il y a absolument nécessité d'avoir une alternance très forte. Et l'alternance telle que l'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire 50-50, hein, 50% de temps passé auprès des personnes, des soins et des professionnels dans cette sorte de compagnonnage, ça paraît très important. Même 50%, c'est le minimum, certainement. Hein. On voit bien qu'au bout de 3 années et de 50% de temps passé auprès des professionnels, tout n'est pas encore bien acquis. Hein. Donc ça, c'est vraiment aussi un enjeu important. Et certaines structures de formation aujourd'hui ne peuvent pas assurer, dès la première année, des stages. Hein. Et est-ce que c'est suffisant d'aller en stage, d'être prêt, d'apprendre le métier, hein, à partir de la deuxième et de la troisième année? C'est une question à se poser, en tout cas. La formation par les pairs. La formation par les pairs, c'est aussi notre avenir. Hein. La formation par les pairs, on en a parlé suffisamment. Plus de 500 000 professionnels, un groupe social très important et un groupe social qui est important pour la population française, mais en même temps un groupe social faible politiquement. Pensez-y aussi. En tout cas, en sociologie des professions, une formation assurée par les pairs est un attribut majeur de la construction de l'identité professionnelle. Donc, est-ce qu'on conserve cette formation par les pairs, ou bien est-ce que effectivement, on arrête ce type de formation. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont importants. Alors, après, bien sûr, rentrer dans la filière LMD, c'est tout à fait indispensable. On y est et on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, on est dans un dispositif, semble-t-il, intermédiaire. Effectivement, ces instituts de formation adossés à des établissements hospitaliers, qui sont maintenant dans un GCS, un groupement de coopération sanitaire, avec un partenaire qui est l'université, mais aussi en même temps avec un financeur qui est le conseil régional, et qui finance le fonctionnement, l'équipement, mais l'investissement n'est toujours pas tranché. Donc, comment fonctionner avec toutes ces structures qui sont extrêmement différentes depuis la loi de décentralisation 2005 avec les régions, nous avons commencé une acculturation qui était tout à fait nouvelle pour nous. Nous ne fonctionnons pas pareil, nous ne pensons pas pareil. Les cultures ne sont pas les mêmes. L'université, nous recommençons une acculturation. Il faut que nous apprenions à nous connaître, il faut que chacun trouve sa place, son territoire, etc. Et tout ça, ce n'est pas facile. Et puis, il y a le GCS, et il y en a... Et en plus, nous sommes donc un service des centres hospitaliers auxquels nous sommes adossés pour la majorité des instituts qui existent en France. Imaginez un peu la complexité du fonctionnement et la perte de temps et d'énergie dans des choses que l'on pourrait consacrer à la formation. Alors, en même temps, effectivement, on pourrait penser que nos structures deviennent autonomes, des structures autonomes, certainement. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. En France, il n'y a pas 50 schémas de formation. On voit qu'il y a effectivement l'université. Il y a des formations professionnelles post-bac et des choses très intéressantes. Par exemple, les architectes, les ingénieurs, avec les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architectes qui ont des reconnaissances à des grades universitaires et qui sont des formations très reconnues dans notre pays. Donc, on pourrait imaginer que effectivement, les formations au métier de la santé et du social aussi puissent se faire dans un système de hautes écoles. Alors, clairement identifiées et politiquement reconnues, ou bien alors après, on passe dans d'autres systèmes de formation où les métiers de la santé ne sont pas clairement identifiés, avec les conséquences aussi que ça peut avoir. Nos collègues du social sont en train de travailler là-dessus et eux aussi sont sur des créations de hautes écoles aux professions de l'action sanitaire et sociale qui vont du niveau 5, qui n'existera certainement plus d'ici quelques temps d'ailleurs avec le bac professionnel santé, à voir ça aussi, cette affaire-là, jusqu'au niveau doctoral. Et bien sûr, l'université est très présente dans ces hautes écoles. Bien sûr qu'elle est très présente. Parce que les bases scientifiques du savoir sont aussi indispensables que l'apprentissage de la compétence au lit de la personne que l'on soigne. Donc, pour aller jusqu'au doctorat, donc le master, là, ça va être quelque chose de très important. Il va falloir être vigilant sur ces niveaux master. Comment ça va se construire, etc. Les pratiques avancées, on en a parlé, et puis il faudra aller jusqu'au doctorat. N'oublions pas déjà que nous avons un certain nombre de professionnels, infirmiers, cadres de santé et autres professionnels qui possèdent déjà des doctorats. Il y en a plus que l'on ne croit chez nous, mais qui n'ont aucune reconnaissance, bien sûr, sociale. Donc, vous voyez, plein de questions qui se posent autour de l'avenir de cette formation. Nous sommes dans une période transitoire, c'est sûr. Ça ne pourra certainement pas continuer de fonctionner comme ça, mais quid des structures qui existent, quid des personnels qui sont dans ces structures. Donc voilà, il y a toutes ces questions aussi qui se posent. Merci de votre attention.